Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tout le monde. Alors, on va prendre un premier texte, on va faire la lecture dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire simplement 2 ou 3 versets, et puis ensuite nous prolongerons notre réflexion dans l'Ancien Testament, dans une histoire qui nous ramène, à véritablement faire confiance à Dieu, même si on se sent faible et dépourvu de toute capacité. Alors c'est ce qui peut nous arriver les uns et les autres. Parfois on se dit, mais je n'y arriverai jamais, je ne parviendrai jamais à atteindre ce but ou cet objectif. Alors on commence, je le rappelle, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Et voilà le texte. « Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, selon la nature, si vous voulez, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Voilà, alors ça, nous connaissons ce passage, puisque, nous le lisons de temps à autre, et on le connaît. Et vous avez remarqué, il est question de contraire, d'opposition, la sagesse, la puissance, la noblesse. Alors, on sait ce que ça veut dire. Et voilà que les choses sont renversées. Il est question de folie, il est question de faiblesse et il est question de mépris. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Si nous prenons les choses en compte selon les critères humains, critères d'hier et d'aujourd'hui, critères des hommes, on s'aperçoit que pour réussir, il faut être sage, intelligent. Il faut également être puissant. Avoir de la force, de l'audace, de la témérité. Et il faut une certaine noblesse, c'est-à-dire réputation, distinction et tout ce qui va avec. Or, vous avez remarqué avec moi que les principes de l'Évangile par lesquels Dieu agit dans le monde, à travers finalement des hommes que l'on appelle des croyants ou des chrétiens, c'est précisément le contraire qu'il emploie et qu'il utilise, c'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, selon le raisonnement des hommes, selon la stratégie ou la manière de faire et d'être, Dieu va choisir quelque part la folie. Dieu va choisir la faiblesse et il va faire le choix de ce qui est dédaigné, méprisé, des gens qui ne sont rien, des choses viles. Et je vous donne l'exemple. Vous savez que l'accueil de l'Évangile a été beaucoup plus, finalement compris et accepté par ce qu'on appelle et ce que l'on appelait des publicains, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient regardés de travers, ou comme on dit de haut, par, les autorités de l'époque, autorités religieuses, et puis des gens qui avaient également pignon sur rue. Alors on disait, mais ces pauvres gens, ils suivent un homme, prophète de Nazareth, prétendument le Messie. Et comment se fait-il que cet homme qui se dit prophète et envoyé de Dieu choisit pour être ses disciples, pour être, eh bien, ses suivants, des gens de rien. Or, ceux qui parlaient ainsi étaient particulièrement cette classe de distinction élevée dans la société israélite du temps. C'est eux qui parlaient comme ça. Or, Jésus dira, eh bien, je vous dis que les publicains, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous devanceront dans le royaume de Dieu. Renversement complet et total. Et nous savons que si nous regardons un petit peu la structure et la pensée de ce que Jésus annonce à travers cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est précisément ce que nous avons lu. Alors, ça nous semble quelque part, avec nos réflexes d'homme, on se dit, bien, si je veux faire quelque chose, il faut que je sois fort. Il faut que j'arrive à me faire une place au soleil. Il faut que je puisse, eh bien là, avoir une réputation. Et puis à ce moment-là, eh bien, je vais réussir. Or, Jésus nous dit tout à fait le contraire. Et c'est toujours l'apôtre Paul, le même qui a écrit ce que nous avons lu il y a un instant, qui dira ces paroles que vous connaissez aussi bien. Il dit ceci, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors c'est vrai que parmi les enfants de Dieu, dans les chrétiens, souvent, nous nous mettons en complexe. Et nous disons, bien voilà, j'ai un ressenti douloureux à l'intérieur de moi-même, devant telle ou telle chose, devant telle ou telle situation dans ma vie chrétienne, dans les implications de ma foi, à travers peut-être tout simplement eh bien les engagements que je peux avoir à l'extérieur du contexte spirituel, dans la réussite des affaires, dans ceci et cela, je me sens tellement petit, tellement diminué, je pense que j'y arriverai pas. Alors vous avez bien compris que Jésus est en train de poser un principe qui est complètement à l'inverse du fonctionnement et du raisonnement des hommes et de ce qui se fait, eh bien, autour de nous habituellement, hier comme aujourd'hui. Alors pour cela, j'aimerais que, je vous ai dit que nous ferions une deuxième lecture, j'aimerais que nous fassions un deuxième texte que nous allons prendre, et qui est, en quelque sorte, la preuve de ce que nous venons de dire en introduction. Alors, ça se trouve dans le livre des Juges. Si je vous parle de Gédéon, vous allez comprendre que l'application est tout à fait appropriée à ce que, eh bien, Paul disait, c'est quand je me sens vraiment petit, quand je me sens diminué, quand je me sens sans force, eh bien là, en faiblesse physique, en faiblesse morale, et que je ne sens absolument rien sur le plan spirituel qui pourrait peut-être me donner de l'élan et de l'énergie, eh bien, Paul dit ceci, eh bien, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, comme dit Jésus, que celui qui a des oreilles entende, parce que quelquefois on a du mal à le comprendre. Alors, on va voir cette histoire de Gédéon. Et Gédéon, c'est un homme qui vivait dans une période assez troublée dans l'histoire de la nation d'Israël. Et c'était un garçon qui il se désavouait lui-même. Il se désapprouvait en disant, mais qu'est-ce que je suis rien. Et pourtant, parce qu'il disait « je suis rien », Dieu dit « tu es un vaillant héros ». Tu le sais pas, mais tu es un vaillant héros, et moi je veux faire de toi. Parce que tu es humble, parce que tu es modeste, et que tu ne mets pas eh bien tes possibilités, ou tes facultés, ou ce qui peut être donné naturellement par la nature, eh bien parce que justement tu es dans cet état d'esprit, eh bien tu vas devenir véritablement le chef de mon peuple d'Israël. Et c'était vrai pour David aussi. Alors on va lire. Donc, je vous ai pas dit, Juges, chapitre 6 et verset 11. Alors, on va voir un petit peu cette histoire. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillante héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter, hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui. Et il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. Et la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il met la chair dans un panier et le jus dans un pot et les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. Ce sont les rudiments de ce qui était à l'époque, en quelque sorte, eh bien une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Enfin, ce sont des choses qui avaient cours. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Alors, pour resituer un petit peu les choses, pourquoi Gédéon ? Quelles sont les circonstances qui ont amené le choix de Dieu sur ce garçon qui, finalement, était parmi les jeunes gens en Israël, certainement, eh bien là, perdu dans la multitude, et on n'aurait certainement pas eu l'idée, humainement parlant, d'aller chercher un garçon pour qu'il devienne, en quelque sorte, eh bien, le chef de l'armée d'Israël qui allait combattre les ennemis qui opprimaient le peuple de Dieu. Quand on lit le début du chapitre, on s'aperçoit que les raisons de cette occupation étrangère du pays d'Israël, c'est qu'il nous est dit clairement que Israël fit ce qui, eh bien, ce qui déplaisait à l'Éternel, et c'est Dieu qui livra son peuple entre les mains de Madian durant 7 ans. Imaginez-vous une occupation d'un pays pendant 7 ans. Hein, on sait par l'expérience que il y a quelques 70 ans, la France a été occupée pendant 4-5 ans. C'était déjà pas mal. Et là, eh bien, c'était quand même un petit peu plus long. Et il nous est rappelé également que l'oppression de Madian, qui était un petit peuple, mais qui était devenu plus puissant que le peuple de Dieu, en raison de ce que Dieu avait autorisé, que cette nation étrangère, eh bien, vienne, occupe le territoire, occupe le pays, et il nous est même dit que cette main étrangère était puissante contre Israël. Alors, les enfants d'Israël, pour survivre à cette occupation, à cette terreur et cette horreur de la guerre, eh bien, il nous est simplement rappelé qu'ils se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Alors, ce qui montre bien, c'est qu'il n'y avait plus de liberté, c'est qu'il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus, finalement, d'existence possible. Les gens se cachaient. C'est terrible quand les gens sont réduits à se cacher, à se dissimuler pour sauver leur vie. C'était ainsi. Et il arrivait même que quand Israël parvenait à mettre de la semence en terre pour subsister, pour avoir une récolte, eh bien, là, les ennemis arrivaient et puis ils venaient à la bonne époque. Hein. Alors à ce moment-là, ils ramassaient tout. Ils ramassaient l'orge, ils ramassaient le blé, ils ramassaient tout. Et puis finalement, Israël n'avait plus rien à manger. Les gens mouraient de faim, tout simplement. À un moment donné, Israël a crié à Dieu. Il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu qui était son Dieu et que Dieu pouvait encore faire quelque chose pour eux. Vous remarquerez avec moi, c'est que quand Israël s'est trouvé dans la faiblesse, c'est là où il a crié. Tant que pas de problème, tant qu'il n'y avait pas de difficulté majeure, bon, les gens pouvaient se passer allègrement de Dieu. C'est un petit peu le caractère même de notre société aujourd'hui, hein, où, malgré ce qu'on peut nous dire, finalement, eh bien, on vit en paix, on a ceci, on a cela, on jouit de pas mal de choses, et on pourrait certainement être un petit peu plus reconnaissant des conditions de vie dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, hein, dans la généralité naturellement de notre nation. Mais là, ils se sont trouvés dans une situation extrêmement difficile, et il nous est dit qu'Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et quand on crie à Dieu, Eh bien, Dieu entend, à tel point que Dieu envoya un prophète. Un homme a été suscité à ce moment-là pour parler, eh bien là, au peuple élu, un prophète des enfants d'Israël. Et en substance, ce qui était entendu, ce qui devait être entendu, Dieu dira, mais je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Vous êtes malheureux aujourd'hui, mais vous souvenez qu'il y a des siècles et des siècles, du temps d'un homme qui s'appelait Moïse, vous avez été dans la même condition et à ce moment-là, moi, je vous ai fait sortir. Vous vous souvenez de ça? Alors, à ce moment-là, eh bien, moi, je peux vous donner la même chose. Je peux vous procurer la même délivrance. Alors donc, ça, c'était la promesse. Et les choses vont se passer de cette manière. Par le truchement d'un ange. Voilà, le truchement d'une apparition, mais pas n'importe quel ange, l'ange de l'Éternel. Et c'était la représentation, en quelque sorte, avant le temps. C'était une anticipation de la venue de Jésus. On pourrait le dire comme ça, si vous voulez. On appelle ça une théophanie en théologie. Mais bon, peu importe, on va retenir simplement que l'ange de l'Éternel, eh bien, c'est Dieu lui-même, et en quelque sorte, avant le temps, la venue, tout simplement, de Jésus. Alors, il nous est dit qu'il est apparu dans la région, dans le village de, tout simplement, de la famille d'Abiézer, dont Gédéon était le fils. Alors, simplement, l'ange de l'Éternel a trouvé ce garçon-là dans le pressoir, où il devait plus y avoir grand-chose. Vous savez, là où on faisait un petit peu les réserves, où on battait le blé, etc. Et dans cette apparition, il va entendre une parole, Gédéon va entendre une parole assez étonnante, c'est que Dieu va lui dire, Gédéon, tu es un vaillant héros et l'Éternel est avec toi. Voilà. Ça, c'est quand même assez étonnant parce que on va voir la réaction de Gédéon dans cette circonstance. C'est qu'il va être complètement désorienté, complètement, perdu. Parce que comment Dieu peut-il appeler un garçon comme lui et lui donner déjà un titre avant d'avoir remporté ou d'avoir manifesté finalement quelque chose à... Mais ce que Dieu sait, ce que Dieu relève, c'est que il sait que Gédéon est un homme de foi. Il a peut-être pas de force, il a peut-être pas de nom ou de renom, il a peut-être pas d'envergure, mais Dieu sait déjà que dans le cœur de ce garçon, il y a la foi. Et la foi, ça change tout. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure sous la plume de l'apôtre Paul, parce que c'est sous-entendu que Dieu n'a pas choisi les choses fortes, les choses sages, etc. Mais sous-entendu qu'un homme qui a la foi, un homme qui croit en Dieu, un homme qui est réceptif à cette parole que Dieu lui dit et qui y croit, alors à ce moment-là, il a cette sagesse de Dieu, il a cette puissance de Dieu, et il a cette noblesse et dignité de Dieu. Ça change tout. Alors, voilà, les choses sont dites. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à ce que, aussi toujours Paul dira dans l'Épître aux Romains, si ma mémoire est fidèle, quand il dit ceci, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça, quelquefois, nous avons tendance à l'oublier parce que nous sommes beaucoup plus sensibles à regarder aux éléments ou aux événements de l'extérieur que véritablement, eh bien, ce que Dieu nous dit et ce que nous devons garder et croire au fond de notre cœur. C'est la grande différence entre ceux qui, eh bien, appuient ou font reposer leur vie sur la parole de Dieu avec ce que Dieu nous dit et puis ceux qui, finalement, eh bien, comptent sur eux-mêmes, comptent sur les événements ou leur force ou leur intelligence ou leur capacité. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce à quoi Gédéon va répondre aussitôt, ah, mon Seigneur. Et il va finalement se plaindre. Il va se plaindre de sa faiblesse. Il va se plaindre de la situation de sa nation, de son peuple, de tout ce qui est autour de lui. Il dira, mais si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? La réponse, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que l'Éternel avait abandonné, avait trahi Dieu, avait complètement, eh bien, évacué la notion de Dieu au milieu d'un peuple qui était le peuple de Dieu, au milieu de cette nation qui normalement avait été façonnée, pétrie, élevée et on pourrait dire glorifiée aussi à travers le nom de Dieu, le nom de l'Éternel d'Israël, enfin le Dieu d'Israël. Alors, il se pose la question, comme tout un chacun, il se dit, mais Comment ça fait? Tu m'appelles, moi, vaillant héros, tu me dis que je suis, tu es avec moi, mais comment ça se fait qu'il y a ceci? Pourquoi il y a cette détresse? Pourquoi nous n'avons plus à manger? Pourquoi les ennemis sont-ils venus occuper et investir notre pays? Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Et ça, vous savez, c'est souvent ce que nous disons. Quand nous voyons et nous sommes confrontés avec des situations extérieures difficiles ou des situations qui nous frappent nous-mêmes en disant, mais ben, si Dieu est vivant, ou si Dieu est réel, ou si Dieu est avec moi, mais comment se fait-il qu'il m'arrive tout ça? Alors je voudrais quand même préciser une chose, c'est pas parce qu'il nous arrive quelquefois des situations difficiles, la maladie, l'accident ou les choses comme ça, que Dieu n'est pas avec nous. Parce que nous interprétons les choses à notre manière, nous interprétons les choses finalement avec une analyse qui est celle de la raison, d'une logique humaine, qui est une réalité, on va pas se voiler la face. Quand il y a des choses difficiles, ou parfois même des drames dans la vie d'un chrétien, ça existe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et souvent nous oublions que Dieu est là parce que nous interprétons les choses de cette manière et nous disons, eh bien si Dieu est là, parce que Dieu est vivant, eh bien ça ne devrait pas m'arriver. Or, on s'aperçoit d'une chose, que c'est pas parce qu'il y a ceci ou cela dans la vie de celui-ci ou de celle-là, dans ma vie, que Dieu n'est pas là. Et précisément, avec et à la faveur peut-être des moments difficiles et des moments tragiques que nous connaissons, eh bien Dieu va se révéler encore plus à nous. Et ce sont précisément ces situations d'infortune qui nous mettent dans une situation, dans un état qui fait que nous nous sentons si faibles que nous avons plus de force. Et c'est là où Dieu nous dit, eh bien parce que tu es faible, moi je vais te rendre fort. C'est peut-être une interprétation, une compréhension des épreuves et des difficultés de la vie. Quelquefois nous avons des réactions qui sont, excusez-moi l'expression, mais qui sont quasi superstitieuses. Alors, voilà, il y a ceci, il y a cela, il m'arrive ceci et cela, donc ça veut dire que Dieu m'abandonne ou que Dieu ne fait rien. Non? C'est à travers précisément cette situation que Dieu va se révéler comme il ne s'est jamais révélé à nous. Et en même temps, cette situation que nous vivons nous amène à plus de modestie et plus de réceptivité d'entendre Dieu nous parler et d'être conduit entre ses mains pour être des vainqueurs et de triompher des difficultés. Et ça, c'était le raisonnement de Gédéon. Si l'Éternel, eh bien, ça ne nous arriverait pas. Voilà. Eh bien, c'est arrivé, tout simplement. Et il va continuer ses litanies ou ses plaintes. Il dira, mais où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Eh oui. Ça, c'est aussi un raisonnement qui caractérise souvent, eh bien, quand nous sommes un petit peu désorientés. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles et où sont les prodiges? Nous avons entendu parler que Dieu est puissant, que Dieu est capable de toutes choses, qu'il est le Seigneur et le Dieu de l'impossible. Alors je l'ai entendu, je l'ai peut-être vécu ultérieurement dans ma vie. J'ai reçu le témoignage de celui-ci ou de celle-là, de cette personne ou d'une autre, croyante naturellement. Alors pourquoi pas moi? Et pourquoi pas maintenant? Et comment se fait-il que Dieu se tait? Et comment se fait-il que Dieu ne fait rien? Et qu'il me laisse dans cette situation? Je crie à lui, nous crions à lui, et puis finalement, eh bien, le ciel reste des reins. C'est ça l'histoire. Où sont les belles choses? Où sont les prodiges? Où sont les miracles? Et pourtant, Seigneur, tu as fait des grandes choses. Et encore une troisième plainte de la part de Gédéon, quand il dit ceci, « Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de nos ennemis, entre les mains de Manieu. » Dieu ne nous abandonne pas. Il peut y avoir quelquefois l'impression que nous sommes abandonnés, que nous sommes, eh bien là, seuls dans nos combats et dans nos luttes, mais il y en a un qui veille. Et il veille pour que nous, nous nous réveillons. Et c'est lui qui va nous réveiller, c'est lui qui va nous éveiller à une autre dimension, à une prise de position, à une réaction, qui va faire de nous, dans notre faiblesse, des hommes forts, de vaincus, dans notre ressenti, eh bien, devenir des vainqueurs. Il nous livre entre les mains de Madian. C'était une vérité en partie. Mais on ne peut pas dire que Gédéon, c'était pour lui personnellement, c'était une situation générale avec tout ce que cela pouvait avoir de conséquences pour le peuple de Dieu. Lorsque nous continuons, Dieu va lui parler encore, il va lui dire, eh bien, Gédéon, je te choisis pour que tu sois le libérateur de mon peuple. Et il va simplement, dans cette simple phrase, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, parce que n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Pour un jeune homme qui n'a jamais été certainement exercé au combat, dans une nation vaincue, une nation écrasée, une nation piétinée, pourquoi lui ? Parce que Dieu aurait pu trouver peut-être parmi son peuple de grands et jeunes garçons, habitués peut-être à l'exercice de la combativité, d'une agressivité, enfin toutes sortes de choses. Mais Gédéon n'avait rien de tout ça. Je m'imagine que Gédéon était un peureux, un timide, quelqu'un qui était un petit peu introverti. On n'entendait pas parler de lui. Et s'il y avait quelqu'un qui devait certainement dire « Moi, je préfère marcher derrière que devant », ça devait être Gédéon. Et c'est pourtant celui qui marche derrière que Dieu lui dit « Maintenant, tu vas marcher devant ». Combien de fois nous exprimons ce genre d'attitude et de sentiment ? Notre timidité. Gédéon était un homme timide. Voilà. Et Dieu le choisit parce qu'il est timide. Et je voudrais vous dire, vous ne m'en voudrez pas, mais quand dans nos cultes, nous avons la possibilité de louer le Seigneur, lorsque nous avons des réunions de prière, et que nous sommes en train de dire, je vais aller à la réunion de prière, ou je vais aller au culte ce matin, je vais prier. Et que quand on est ici, quand on est à l'instant, on a bien dit, je vais prier, et au dernier moment, on dit au Seigneur, je peux pas. Non, c'est bien. C'est vrai, hein. Vous savez, on n'apprendra jamais le combat et on n'apprendra jamais la victoire. Parce que nous avons une parole à tenir devant le Seigneur. Et il sait très bien ce que nous ressentons lorsque nous devons rendre témoignage. Et que l'on sent que là, on peut être en plein air, mais que nous manquons d'air. Et que on sent notre cœur qui commence à s'affoler, nos idées, on ne sait plus tellement où on en est rendu, ça commence à se bousculer dans notre tête en disant « Mais par quoi ? Comment, par où vais-je commencer ?» Eh bien justement, on ressemble à Gédéon en disant « Mais je peux pas. » Et Dieu nous dit « Va avec cette force que tu as. » Je vois quelques sourires sur vos lèvres qui montrent bien que c'est un vécu de chacun. Mais une chose qui va faire la différence, c'est que c'est Dieu qui va nous donner la capacité. Si nous la cherchons en nous-mêmes, eh bien, nous la trouvons facilement, cette incapacité, à cause des battements de notre cœur, à cause de notre souffle qui commence, eh bien, à nous manquer, à cause, quelquefois, de cette confusion de pensée, on ne sait plus dès le moment où on en est rendu, ça nous montre que finalement, nous ne pouvons pas. Mais avec Dieu, nous pouvons. Et là, il faut lui faire confiance. Ce n'est pas mon ressenti qui doit dominer, mais c'est ma conviction à ce que j'ai entendu. Va avec la force que tu as. Vous savez, c'est vrai pour un prédicateur, hein, et un jeune prédicateur par surcroît. Quand on doit parler, hein, avec les années, on commence à prendre le dessus. Mais c'est terrible, hein, d'avoir un auditoire devant soi et de devoir parler en public. Et on se dit, mais comment je vais faire ? Eh bien oui, et vous savez, le principe est toujours le même. Je rappelle, c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Et ça, c'est une, j'allais dire le mot, on va le dire quand même si vous voulez, mais c'est une technique à acquérir. À ce moment-là, je me déconnecte de moi-même, de mes sentiments, de mes impressions, de mes malaises, de mon embarras, de toutes sortes de choses. Et je me dis, Seigneur, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est toi qui vas me porter. Vous savez que des grands hommes de la Bible ont vécu ce genre de palpitations et ce genre, d'émotions intenses. Je pense à Moïse. Quand Dieu lui dit, maintenant tu vas aller vers Pharaon, et Moïse dit, bah tu en envoies un autre parce que moi je sais pas parler. Il a pu parler quand même, hein, Moïse. David, c'était la même chose, et puis bien d'autres comme ça. Alors, tu vas avec la force que tu as. Peut-être que, dans les jours qui vont venir, peut-être je pense aux jeunes qui vont passer les examens. Et puis, peut-être là, il y a une échéance avec quelque chose que nous redoutons, qui nous, prend un petit peu à la gorge en disant « Mais comment je vais y aller ? Comment je vais faire ?» Eh bien, Dieu nous dit « Va avec la force que tu vas, tout simplement. Tu peux y aller. Tu vas voir, ça va marcher. » Parce que le grand problème, et je le disais dernièrement à quelqu'un qui devait passer aussi un examen, tout simplement, on peut avoir des acquis, on peut connaître beaucoup de choses, on peut avoir la connaissance, et tout est perdu au dernier moment à cause d'une émotion, à cause de quelque chose intense qui va nous faire perdre, et on va perdre nos moyens, vous comprenez, alors qu'on le sait. Alors que ce serait dans un autre cadre et dans d'autres conditions, on saurait bien répondre, on saurait bien faire, on le ferait avec tout simplement sérénité, on le ferait avec tout ce qui est nécessaire. Et là, on gagnerait, mais parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Et Dieu nous dit, mais justement, faut pas que tu regardes le contexte, faut que tu regardes à moi et que tu me fasses confiance. Va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël, imaginez-vous pour Gédéon. Délivrer Israël, un peuple. Apporter la délivrance à une nation entière contre un ennemi qui est numériquement et à travers 7 ans d'occupation, ils avaient fait des racines dans le pays. Ils se disaient, de toute façon, personne ne nous fera partir d'Israël. On est là, on y reste et personne ne nous touchera. Et ce ne sera pas les Israélites qui vont nous chasser. Et Dieu d'ajouter pour Gédéon, mais est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? Est-ce que c'est toi qui veux y aller par toi-même? Si tu voulais y aller par toi-même, tu n'y arriverais pas. Mais c'est moi, ton Dieu, qui te donne le mandat d'aller délivrer Israël, et parce que c'est moi qui te le dis, tu vas voir que ça va marcher. Oh, quel pas! Quelle avancée! Oh, c'est quelque chose de terrible, cela. Vous savez, ça se limite exactement à la même chose que quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est toujours un acte de foi, quelque part. Toujours cet acte de foi. Alors Gédéon lui dit, il se plaint encore, parce que il se sent pas... Vous savez, on se plaint souvent avec l'enseignant. Je peux pas, Seigneur. J'y arriverai pas. C'est pas possible. Ça me dépasse. Alors, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il avait bien besoin de poser la question. Peut-être que lui, il pensait qu'il fallait rassembler des soldats, qu'il fallait avoir des épées, qu'il fallait... Surtout qu'il n'y en avait plus. Avec quoi? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Comment ça se fait que tu as porté ton regard sur moi? C'est comme David. Lorsqu'il était choisi par Dieu, il avait 7 frères qui étaient plus grands que lui, qui étaient plus vaillants que lui, qui étaient plus âgés que lui, aguerris à la guerre et au combat. Et pourtant, Dieu dira au prophète, il lui dira, c'est pas ces forts et ces grands que je veux, c'est le plus petit de la famille. Parce que David était le plus petit de la famille d'Isaïe, vous comprenez? C'est exactement la même chose. Et là, on peut toujours argumenter devant Dieu que, et c'est ce que nous faisons souvent, nous disons, mais on n'y arrivera pas, Seigneur. Et Dieu lui reprend la parole et lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Mathéon comme un seul homme. Vous savez, cette insistance de Dieu auprès de nous, dans tous les domaines de notre vie, dans notre vie extérieure, dans les choses indifférentes de notre existence, ou dans les combats et les luttes que nous avons à mener dans notre vie spirituelle, dans les victoires à prendre, les combats qui sont devant nous, ne serait-ce que pour ouvrir la bouche, pour prier, ou pour louer le Seigneur, ou pour rendre témoignage, ou pour faire ceci et cela, mais nous avons toujours cette même réflexion. Et Dieu nous répond, mais je serai avec toi. Et ça, nous ne le voyons pas. Nous donnons beaucoup plus d'importance à nos émotions et aux ressentis, et à nos sentiments, à ce que nous voyons, ce que nous entendons, notre environnement, plus que ce que Dieu nous dit. Et pourtant, chaque semaine, nous venons dans ce lieu pour entendre la parole de Dieu, pour entendre son message, qui est toujours un message d'encouragement, il me semble, d'exhortation. Nous lisons la parole de Dieu tous les jours. Et qu'est-ce que nous retenons? C'est pas un jugement que je porte, mais c'est pour... avancer dans quelque chose de positif, quelque chose qui nous construit, quelque chose qui nous donne véritablement, d'aller de l'avant et de prendre des victoires. Et la première victoire, c'est pas tant sur les choses extérieures que sur nous-mêmes, sur notre cœur et tout ce que nous ressentons. Et ça, nous avons besoin d'être guéris par Dieu, d'être déconnectés, finalement, de cette humanité tellement impressive, tellement forte à l'intérieur de nous-mêmes. Mais je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, tu vas battre Madian, tout simplement, comme un seul homme, comme si tu étais tout seul. Voilà, un homme contre une armée. Et Gédéon, toujours lui dit, mais là, c'est un petit peu plus positif. Il dit ceci, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. On sent bien que Gédéon, il n'est pas encore très rassuré, et il a besoin d'un signe. Et vous savez qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui disent au Seigneur, Eh bien, moi, je croirai que quand tu me donneras un signe. C'est ce que Jésus dira lorsque ce Père viendra le chercher, le quérir, pour que Jésus descende, pour guérir son fils qui est malade. Et Jésus dira, mais si vous ne voyez des signes et des miracles, vous ne croyez pas. Alors, je veux bien croire que pour un Gédéon tout neuf, tout nouveau, jeune homme, complètement déconcerté parce que il reçoit l'appel de Dieu et il se sent complètement incapable, je comprends qu'il demande un signe. Je comprends que des amis qui viennent dans nos réunions pour les premières fois et qui sont en train de découvrir l'Évangile, qu'ils demandent un signe. Mais lorsque nous avons 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion et que nous demandons un signe, ce n'est pas la foi qui nous motive, c'est l'incrédulité. Parce que nous ne devrions plus en être là. C'est un signe d'immaturité. Ne marchons pas avec des signes. Et vous savez les signes, ce que ça amène? Eh bien, ça amène toutes les déviations, et toutes les dérives du genre de choses que nous condamnons nous-mêmes quand nous voyons que on essaie de marcher avec des visions, des révélations, des rêves, avec des impressions, avec toutes sortes de choses. Et vous savez, ça, c'est un terrain, lorsque nous avons quelques années de vie chrétienne et de connaissance de Dieu, c'est un terrain sur lequel l'adversaire veut nous conduire pour nous confondre et nous faire tomber. On a vu tellement de chrétiens, après avoir entendu l'appel des sirènes, prophètes et autres, courir de droite et de gauche, et de dire, eh bien voilà, il y a quelque chose qui se passe ici, donc dans notre église, il n'y a plus rien, donc c'est mort, voilà, c'est fini, c'est terminé. Ah, ils sont allés, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ont tellement été séduits. Et ça s'appelle tenter Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu, parce qu'il est Dieu. Dieu est Dieu, et il dit la vérité. Et quand il dit la vérité, il nous faut le croire sans preuve. Tout simplement, on n'a pas besoin de preuves. Et ça, c'est dangereux. Alors pour Gédéon, on passe. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Mais écoutez, est-ce que nous n'avons pas suffisamment de la parole de Dieu? C'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. On n'a pas besoin de courir de droite et de gauche. On n'a pas besoin d'aller voir prétendument homme de révélation ou prophète ou ceci et cela. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai, je t'enseignerai. Dixit, le psaume 34. Ça suffit. Et nous avons vraiment besoin d'avancer en faisant confiance au Seigneur, tout simplement. Alors il va y avoir toute une démonstration, une préparation. Et Gédéon dit, voilà, eh bien moi je vais préparer un chevreau, je vais préparer un autel, et puis je vais le mettre en sacrifice parce que je suis convaincu que c'est Dieu maintenant qui m'a parlé. Alors il veut honorer Dieu. Et il nous est dit que l'ange de l'Éternel, eh bien, à ce moment-là va venir. Et il va toucher le sommet du rocher, ou de l'autel si vous voulez, et il nous est dit que alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enleva. Ça, c'est le signe. Il en avait besoin, Gédéon. Mais je crois que nous avons besoin tout simplement de faire confiance à Dieu parce qu'il est invisible, Seigneur. Mais il attend. Et je crois que la plus grande foi, la plus grande manifestation de notre foi, c'est quand nous croyons sans avoir vu. Vous connaissez ce que Jésus dira à Thomas? Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu, ouais. Qui n'ont pas ressenti, qui n'ont pas eu cette sensation ou ceci et cela. C'est ça la plus grande de toutes les fois. C'est celle qui glorifie le Seigneur. C'est pas la foi de l'âme, c'est la foi de l'esprit. Et Dieu est capable de nous faire aller encore beaucoup plus loin. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux à ce moment-là. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Là, il a eu peur. Il s'est dit « Mais je vais mourir. » Parce qu'il a eu une révélation extraordinaire. Extraordinaire. Et encore une dernière fois, l'Éternel lui dit « Gédéon, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras point. Sois en paix. » Vous savez, s'il y a une chose que nous avons besoin d'acquérir et qui va faciliter le développement de notre foi, c'est la foi. Et la foi elle-même va générer la paix. combien nous avons quelquefois été au chevet de chrétiens. Enfin, quand je dis au chevet, c'est pas sur le plan physique, mais qui étaient là dans une situation de grande difficulté et qui n'étaient pas en paix. Ils avaient prié, ils avaient jeûné, ils avaient fait toutes sortes de choses, mais qui n'étaient pas en paix. Et de devoir leur dire, mais écoutez, il faut que vous demandiez à Dieu qu'il vous calme de l'intérieur. Parce que ça devient fébrile, ça devient une véritable maladie. Seigneur, 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 on a vu des choses pathétiques. Hein. Oui, pathétiques. Quelquefois même devant des lits de mort. Où là, eh bien, il y avait, c'était pas la paix, la sérénité, c'était l'agitation. Seigneur, devant la proximité de la mort qui arrivait, je me souviens d'une jeune femme. C'était une véritable détresse. Où là, son mari, eh bien, était en train de dire, faisait les 100 pas dans la chambre en disant, mais Seigneur, faut que tu la guérisses, faut que tu la guérisses, faut que tu la guérisses. Il n'était pas en paix. Et il croyait en Dieu. Il était dans un état, mais pas possible. Et on comprend que c'était son épouse. Et qu'elle allait partir. Et c'était visible qu'elle allait partir. Mais il n'était pas en paix. Et elle est partie. Mais il ne l'a pas vécu comme il aurait fallu le vivre. Dans la sérénité. Parce que ce genre de prière, elle aggrave. Et elle rend, elle donne une grande complexité à la situation. La foi, elle apporte la paix, la sérénité. Et c'est un abandon entre les mains de Dieu. On se dit, mais Seigneur, tu feras ce que tu voudras. Je m'en remets à toi. Je te fais confiance. Alors ne crains point. Sois en paix. Et Gédéon l'a compris à ce moment-là. Il l'a compris parce que c'est le début de sa mission. C'est le début d'une belle aventure avec Dieu. Parce que Dieu va le conduire pas à pas. Et il va devenir véritablement ce que Dieu veut qu'il devienne. C'est-à-dire un vaillant héros. Et il va chasser à un moment donné, eh bien, l'occupant, les Madianites. Et il va prendre la victoire. Et il deviendra un homme d'une grande réputation, d'une grande popularité en Israël. Et pourtant, au départ, c'était un faible, c'était un timide, c'était un timoré. On n'aurait pas misé sur sa tête. On aurait dit c'est un couard. Ben oui, mais justement, ce sont ces gens-là. Et vous savez, quand on regarde dans l'Évangile, eh bien Jésus n'a pas choisi parmi les grands et les nobles du temple toute la nomenclatura, finalement, eh bien, de la religion israélite. Non, il était cherché des pêcheurs du lac. Il était cherché de pauvres gens. Et c'est quand même ces pauvres gens qui ont révolutionné le monde en annonçant l'Évangile, et c'est venu jusqu'à nous. Voilà, les principes de l'Évangile sont contraires aux principes du monde. C'est pour ça que quelque part, on se moque de Dieu. On se moque du message de l'Évangile. On se moque de ceux qui représentent finalement, eh bien, ce royaume de Dieu, en disant, mais ce sont les chrétiens, ce sont des gens de rien. C'est vrai, ils ont raison. On est des gens de rien. Mais avec Dieu, eh bien, nous sommes des Moïse, des David et des Gédéons. Oui, parce que nous faisons confiance au Seigneur et pas à nous-mêmes. Et ça, c'est la grande différence. Alors, il a bâti un autel à l'Éternel et il lui a donné le nom de l'Éternel Paix. Shalom. L'Éternel Paix, vous rendez compte? C'est ça le principe de la foi, c'est la paix. Et la paix, eh bien, elle nous donne de remporter des victoires. Vous savez, dans le livre de, c'est dans Philippiens, Paul nous dit cette parole. Faites part à Dieu de tous vos problèmes, avec des prières, avec des supplications et avec des actions de grâce. Et vous savez ce qu'il est dit un petit peu plus loin? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, tout raisonnement, toute force humaine, toute capacité que nous pouvons avoir en tant qu'homme à l'état naturel, eh bien, il nous est dit, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, premièrement, elle gardera vos cœurs en paix. Elle vous gardera dans le calme. Elle vous gardera dans la confiance. Votre cœur et vos pensées, parce que les grands éléments manipulables et manipulés de notre être, enfin de notre identité humaine, c'est le cœur, le sentiment, et c'est la pensée, l'intelligence. Alors c'est ce que Dieu veut faire. Et la première victoire que Gédéon a remportée, ça n'a pas été sur les Madianites, c'était sur lui. Et Dieu va chercher les petits. Il va chercher les choses faibles du monde. Il va chercher celles qui ne sont pas. Et il confond. Finalement, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis en apposition sagesse, puissance, noblesse, avec folie, faiblesse et mépris. C'est quand je suis faible que je suis fort, parce qu'à ce moment-là, je me déconnecte de moi-même et je dis au Seigneur, eh bien, tu m'investis de ton esprit, tu m'investis de ta parole qui va se transformer et qui va générer de la foi en moi. Alors à ce moment-là, eh bien, je peux aller au combat et je peux remporter toutes les victoires que Dieu met devant nous, parce qu'il nous a dit, c'est toi qui vaincras. Je suis avec toi, n'aie pas peur, que Dieu nous bénisse cet après-midi. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce sont des leçons, ce sont des principes, ce sont des choses que tu rappelles dans un monde, Seigneur, où véritablement, eh bien, tout est fait pour susciter l'émulation, susciter l'esprit de concurrence, la compétitivité, pour susciter, Seigneur, eh bien, là, à la force du poignet, eh bien, toutes les ressources humaines. Alors pour toi, toutes ces ressources, elles ont certainement une raison d'être parce que tu as mis l'homme sur la terre. Et c'est vrai que la vie sur la terre, c'est un combat et une lutte. Mais, en effet, dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'impossible, dans le domaine, Seigneur, des incapacités, Seigneur, et de ce qui peut nous dépasser, eh bien, Seigneur, tu vas souvent chercher ceux qui se sentent véritablement diminués, ceux qui se sous-estiment, ceux qui se dénigrent eux-mêmes, ceux qui disent tout simplement qu'ils n'y arriveront pas, eh bien tu nous prends au mot. Et à ce moment-là, Seigneur, tu fais de nous des vainqueurs, à l'image de Gédéon. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous pouvons très longtemps, Seigneur, pleurer sur notre misère, pleurer sur notre faiblesse. Mais à un moment donné, tu nous dis, va avec la force que tu as. Et je te demande, Seigneur, de nous visiter cet après-midi. Et peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Va avec la force que tu as. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas autour de toi. Mais va avec la force que tu as. Seigneur, je veux prendre cette parole comme une parole de Dieu. Une parole de l'Esprit, Seigneur. Puisque tu ne cesses de nous rappeler que tu es avec nous. Que tu seras avec nous. Que tu demeures, Seigneur, auprès de nous. Alors, nous savons que si Dieu est pour nous, mais de qui aurions-nous peur et crainte? Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier pour ta parole cet après-midi, parce que c'est le principe de la foi. Ce qui, en effet, Père éternel, ne paraît pas aux yeux du monde, paraît dans le ciel, et ce qui est grand, monumental, et éblouissant, Seigneur, ici-bas sur la terre, n'a aucune capacité, Seigneur, pour nous secourir, pour nous sauver. Et ce sont des choses, Père éternel, qui n'ont qu'un temps, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que lorsque tu construis durablement. Lorsque tu délivres, c'est pour nous délivrer durablement. Lorsque, en effet, Seigneur, tu nous conduis à un combat, Seigneur, que nous redoutons souvent. Mais tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir le mener jusqu'au bout. Et à ce moment-là, nous pouvons, en effet, tout simplement, élever un autel de louange. Élever devant toi un temple d'adoration, parce que tu es grand, tu es merveilleux. Et lorsque nous regardons derrière nous, la victoire, Seigneur, qui nous a été donnée, eh bien, nous extasions et nous glorifions ton nom de constater, Seigneur, que ce n'est pas nous qui avons fait les choses, mais c'est toi qui les as fait à travers nous, en commençant par nous guérir de nous-mêmes, pour nous amener à nous remplir de toi. Alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons être appelés vaillant héros, et nous y sommes pour rien. Toi, tu es, en effet, Seigneur, en tout, partout et pour tout, et nous bénissons ton nom cet après-midi. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sanazaire.fr.